Bonjour Monia Chokri.
Bonjour.
Bienvenue dans l'Instant Ciné sur Radio G. Vous êtes venue à Angers présenter le film Simple comme Sylvain, dont vous êtes la scénariste et réalisatrice, mais aussi comédienne. Vous jouez un rôle dans le film. Tout d'abord, pouvez-vous simplement nous présenter votre film Simple comme Sylvain? Ça parle de quoi?
Simple comme Sylvain, en fait, ça parle de Sophia qui a 40 ans, qui est une prof de philo. Qui enseigne ce qu'on appelle au Québec l'université du troisième âge, c'est-à-dire que c'est des cours du soir pour les personnes à la retraite. Et donc, elle a une vie assez rangée avec son compagnon Xavier, avec qui elle est depuis 10 ans. Une relation assez chouette, mais un peu perdue sur le plan, disons, physique. Et ils n'ont pas d'enfants, mais ils achètent une maison de campagne. Et le jour où ils doivent aller rencontrer l'entrepreneur ou le charpentier pour les travaux, son compagnon ne peut pas venir, donc elle y va seule. Et elle fait la rencontre de Sylvain. Qui est un homme de la campagne assez, qui peut sembler simple, et elle va développer une relation au départ passionnelle avec lui et essayer d'avoir tenté une relation amoureuse, donc tout plaqué pour vivre cette passion avec cet homme qui est très éloigné d'elle.
Donc le Sylvain du titre, mais notre protagoniste c'est bien Sophia, ouais. C'est elle notre héroïne et c'est elle qu'on suit tout au long du film.
Absolument.
Alors, vous êtes la scénariste de ce film, quel a été votre postulat de départ? Votre envie au départ?
Après La femme de mon frère, entre-temps, j'ai fait Baby Storm, mais qui était un film que je n'avais pas écrit. C'était mon deuxième film. Mais j'ai commencé mon deuxième film en écriture comme scénariste. Donc, juste après La femme de mon frère, il y a 5 ans, quand j'ai commencé à réfléchir sur le prochain projet, je me posais moi-même des questions sur le système du couple. En fait, j'étais moi-même en couple. J'aimais, mais j'avais vraiment une espèce d'étouffement par rapport au schéma du couple, à ce que ça représente, à ce qu'on attend d'un couple, des projets et tout ça. Puis je trouvais que c'était une espèce de système qui m'angoissait. Et j'ai commencé à réfléchir sur l'amour et sur l'amour versus le couple, le désir, les désirs, pas que le désir physique, mais le désir en général de ce qu'on peut créer dans une relation. Et j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, donc j'ai développé cette histoire avec... Sylvain et Sophia.
Alors, c'est un film sur l'amour, sur la quête de sa propre définition de l'amour.
Oui, absolument. C'est aussi un film sur... parce que l'amour, c'est quand même essentiel, j'ai l'impression, quand même, ou en tout cas, ça habite beaucoup notre quotidien ou notre vie en général, le parcours de vie. Et on a souvent du mal à être complètement bien là-dedans aussi. Donc, c'est une question aussi, effectivement, de savoir, comme moi, je me suis questionnée, d'essayer de transmettre ces questionnements-là aux spectateurs aussi, ou de qu'ils trouvent leur propre réponse par rapport à leur définition de l'amour, bien sûr.
Et le thème sous-jacent du film, c'est aussi un peu le choc des mondes. J'utilise un terme qui est celui de la protagoniste, avec deux cultures qui se rencontrent, celle de son amoureux, avec qui la relation plus intellectuelle que physique, et celle du fameux Sylvain, avec qui c'est l'inverse. On a deux cultures qui se confrontent. Est-ce que c'était un souhait dès le départ pour vous?
Oui, bien sûr, c'était de poser évidemment le corps et l'esprit, ce qui est assez le cas en général, parce qu'il y a une composante dans les relations de couple en général, et ça, beaucoup de monde en témoigne, c'est qu'à un moment donné, le corps s'affaisse dans le désir. Plus on avance dans une relation de couple, plus on s'installe. Certains non, mais ça, c'est des exceptions et ils sont bien, bien chanceux de ça. Mais en fait, la question aussi, le postulat de départ, c'est de savoir est-ce que l'amour amoureux peut être complètement délié du désir charnel. C'est une question qui est pas facile à résoudre. Mais sauf que s'il y a du désir charnel, est-ce qu'il y a réellement de l'amour? Pas toujours. Comment ça se développe? Est-ce qu'on confond le désir et le désir sexuel ou avec celui de l'amour? Voilà. Donc c'est des questions.
Alors les deux hommes qu'on rencontre dans le film viennent d'environnements complètement différents. C'est aussi un peu ça qui est au cœur du film.
C'est deux thèmes qui me sont chers dans mon écriture, c'est-à-dire le questionnement de l'amour, c'était déjà le cas dans La femme de mon frère, ou en tout cas les empêchements de l'amour, et la lutte des classes, qui font partie de mon éducation aussi, de par mes parents. Et puis c'est vrai que c'est des thèmes inconscients, mais que j'ai commencé à comprendre en écrivant ce film-là, en me disant « Ah, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup ». Puis en fait, cette idée de classe sociale différente, parce que bon, Sylvain vient de la campagne, c'est un être qui est bon, et Sophia est plutôt d'un milieu plus intellectuel, urbain. Voilà comment ces gens-là se rencontrent, pourquoi on a du mal à communiquer, pourquoi on est dans le même territoire, mais qu'on a des idées sur le monde qui sont complètement opposées. Et puis la vérité, c'est que dans les statistiques, il y a 6% des couples qui se forment qui viennent de classes sociales différentes. Donc c'est quand même assez précis. Et puis le couple, en fait, comme le couple au départ, c'est une alliance économique et sociale. C'est pas une alliance amoureuse. Ça s'est répandu très lentement dans l'histoire de l'humanité. Depuis les années 60, voire les années 70, qu'on commence à former des couples par amour. Et en fait, la vérité, c'est qu'il y a une raison pour ça, c'est que le fait que les gens se mélangent pas dans les classes sociales, c'est parce que c'est un schéma politique, le couple, avant d'être c'est un système politique avant d'être un système juste sentimental, tu sais.
C'est intéressant parce que vous parliez du départ du couple par amour dans les années 60-70, et j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance très 70s dans votre film, que ce soit en termes de couleurs, d'images, la musique qui est très importante et qui joue un rôle important dans les émotions des spectateurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet aspect-là?
Ouais, c'est un mélange, hein, parce que on m'en parle souvent de ça. C'était le cas aussi dans La femme de mon frère. D'abord parce que je travaille en pellicule, donc ça donne tout de suite une qualité d'image qui nous rappelle quand même les films, les films pré-numériques.
Vous êtes une exception.
Ouais, j'ai la chance d'avoir des bons producteurs aussi qui m'encouragent à continuer la pellicule. Donc il y a ça au départ. Ensuite, c'est vrai que j'utilise beaucoup aussi les zooms. Tout le film est à peu près au zoom, à part à quelques exceptions si on manquait de lumière, mais donc ça aussi ça donne un peu cet aspect un peu Cazavette, un peu et puis c'est parce que j'aime ça aussi. Il y a quelque chose dans les films des années 70, même début 80, qui m'interpelle beaucoup au niveau de la cohérence de l'esthétisme. C'est qu'aujourd'hui, ne serait-ce que dans la rue, sur les vêtements des gens, il y a beaucoup de logos, il y a beaucoup de parasites, et il y a beaucoup de couleurs c'est l'arc-en-ciel des couleurs là, dans la rue. Et à l'époque, c'était beaucoup plus simple dans la manière de... Tu sais, on avait des couleurs assez terreuses, tout ça, qui me plaît à l'œil. Et puis, j'ai pris un code couleur assez sobre dans Sam comme Sylvain, où on passe dans des couleurs de terre, des couleurs chaudes comme ça. Puis doublé du zoom, puis de cette espèce d'esprit, effectivement, par la musique et tout ça, avec qui j'ai travaillé avec Forever Pavot, Émile Le Sornin, qui est mon compositeur, qui avait aussi fait la musique de Babysitter. On a cette espèce d'envie de nostalgie. Et ces codes-là, en fait, parce qu'il y a des films de référence comme Love Story... Pour Sam comme Sylvain ou Loulou de Piala, ou ce sont en fait c'est que cette image là et cette musique là elle nous renvoie directement à un sentiment d'amour fleur bleue, donc quelque chose où, c'est comme des codes, en fait c'est comme utiliser des codes de genre, mais au lieu d'utiliser les codes de genre de films comme Bridget Jones, ben moi j'utilise ceux de Love Story ou plutôt des films des années 70.
On sent aussi dans la façon dont vous travaillez les cadres, vous parlez des mouvements d'image, des zooms, des focales. Vous avez vraiment une réflexion dès le départ là-dessus, ou c'était justement en lien avec les références que vous citez?
C'est un mélange. C'est en lien avec les références, mais c'est aussi parce que quand j'ai imaginé le film... Mais le zoom, c'est quelque chose que j'explore depuis mon court-métrage. J'ai poussé le curseur beaucoup là, dans ce film-ci, mais... D'abord, il y avait Altman, beaucoup, Robert Altman, qui est une grosse référence pour moi au niveau du mouvement de la caméra dans ce film-ci. Puis je voulais quelque chose de très sensuel, donc toujours en mouvement, donc soit par le dolly ou soit par le zoom. Donc la caméra, elle bouge quand même tout le temps.
Et ça nous rapproche des émotions des personnages aussi.
Forcément, c'est ce que ça crée le zoom, comment on travaille le rythme du zoom. Et aussi parce que j'ai imaginé comme un documentaire animalier. Donc je me disais, c'est comme un documentaire aligné sur sur les rituels amoureux des animaux, tu sais. Puis j'avais envie de laisser mes acteurs les acteurs comme un peu plus loin pour les laisser libres dans leur mouvement.
Ça explique les images dont on a l'impression qu'elles sont un peu prises, volées sur le vif.
Oui, quand il y a quelque chose de... On est un peu voyeur par moment, le film, où on reste à l'extérieur de la maison. Où, c'est comme si on espionnait un peu.
Oui, mais il y a une forme de pudeur dans ça
oui,
aussi.
Oui, absolument. Oui,
moi j'ai le sentiment que vous avez accordé une grande importance au travail sur les costumes et les coiffures pour donner les personnalités de nos protagonistes. Est-ce que vous avez une réflexion particulière là-dessus?
Ben, au niveau des costumes, moi je travaille les costumes comme je travaille en synergie avec la direction artistique, donc je travaille le costume comme un décor en fait. On essaie vraiment d'ailleurs avec mon chef costumier Guillaume Laflamme, avec Colombe Rabhi qui fait la direction artistique, on travaille vraiment, vraiment main dans la main, les trois ensemble, à réfléchir à est-ce qu'un costume tombe bien dans ce décor-ci, ou comment il est complémentaire. Donc, c'est vraiment des questions qu'on se pose et on est ultra précis sur ces choses-là. Il y a des codes couleurs, évidemment, dans les costumes. Chez Sophia, on est vraiment dans tout l'univers de Sophia, en fait, il est brun, il est chaud, il est terre. Et l'univers de Sylvain, il est bleu. Donc c'était juste des codes visuels pour déterminer un peu l'univers des personnages. Ensuite, au niveau des coiffures, pas particulièrement. Le seul truc précis, c'est que Magali Lépine-Blondeau, l'actrice principale, elle est blonde dans la vie, que là, je lui ai demandé d'être brune pour ce rôle-ci, parce que, voilà, pour que ça la change un peu, puis je trouvais ça plus intéressant pour le personnage. Non, après les coiffures, moi je laisse assez libre. Moi je suis juste sur que le cheveu ait l'air naturel en fait. C'est vraiment une indication que je donne toujours. Puis c'est la même chose pour le maquillage. Tout ça, c'est des choses que je veux garder assez sobre en général.
Alors je reviens un petit peu en arrière concernant la construction de votre scénario. En termes de construction de la narration, le métier de votre héroïne n'est pas anodin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel rôle il joue?
Ben, en fait, elle est prof de philo, comme je disais, à l'université du troisième âge, donc une université qui existe, enfin, c'est des cours du soir pour les personnes retraitées qui existent au Québec. Et donc, elle est prof de philo et elle enseigne, en tout cas dans ce cours-ci, les philosophes et l'amour. Donc, à travers le film est ponctué. C'était une façon un petit peu détournée de créer de la narration dans le film sans en créer. Et donc, le film est ponctué de ces classes où elle enseigne différentes notions de l'amour et différentes manières dont les philosophes ont articulé leurs pensées sur l'amour. Et puis, en découle une espèce d'application empirique pour elle dans sa vie.
Oui, c'est ça. C'est que d'un côté, on a un peu le sentiment que ça joue le cœur de la tragédie grecque, où ça commente l'action. Et en même temps, on a le sentiment qu'elle expérimente comme dans un travail de recherche, les propres théories qu'elle expose.
Oui,
en fait.
C'est un peu ça, ouais.
Les deux sont entremêlés.
Exactement.
Pour terminer, j'aurais une question plus générale sur votre rapport au cinéma. Vous avez évoqué quelques références précédemment. Quels seraient vos films ou vos réalisateurs fétiches?
Ben, Robert Altman, je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve vraiment intéressant, pas parce que c'est celui qui a fait tous les meilleurs films, mais parce qu'il y a... Il y a vraiment, au niveau de ce qu'il est, ce qu'il a été, de chercher dans la forme toujours, de ne pas se questionner, à se dire, à s'arrêter à des genres ou à des... Vraiment juste dans... Il y a une espèce d'amusement de la création. Je l'admire beaucoup pour cet aspect-là. Après, j'ai beaucoup de cinéastes que j'aime énormément, mais j'aime évidemment les Scorsese, les Coppola et cette famille de cinéastes italo-américains que...
Nouvelle Hollywood,
exactement, que je trouve très... Bon, évidemment, qui ont créé des chefs-d'œuvre. Après, il y en a d'autres, tu sais, qui j'aime fétiche. J'ai longtemps aimé Woody Allen, j'ai un peu plus d'a priori. De toute façon, j'aime plus ses films, vraiment. Aujourd'hui, je les trouve un peu ennuyeux, mais il y a eu quand même 30 ans d'âge d'or chez Woody Allen qui était assez impressionnant. Au niveau, tu sais, puis souvent on m'en parle de Woody Allen, comme je fais un cinéma assez volubile, un cinéma d'acteur, ben forcément, et en aspect comédie, souvent on me parle de Woody Allen, et c'est vrai que ça a été une référence pour moi dans la construction de ce que j'ai compris de comment écrire un scénario, en tout cas d'essayer. Dans les plus récents, j'aime beaucoup Sorrentino, je suis très fan d'Alice Rohrwacher, que je suis même très très extrêmement fan d'elle. Je la trouve extrêmement fine. Elle fait un cinéma de poésie. C'est pas facile à faire. Cinéma qui décolle du réel comme elle le fait. Ça, c'est la grâce des Italiens. Sorrentino aussi est assez fort là-dessus. Évidemment, les Fellini et compagnie, Antonioni et tout ça, ça a été le cinéma des années 60 italien est un cinéma que j'admire énormément et que j'aime d'amour. Wong Kar-wai, qui a fait pour moi une des plus belles scènes de l'histoire du cinéma romantique, qui est dans Happy Together, quand il apprend à son compagnon à danser le tango dans une cuisine commune. Ça arrache le cœur. J'en ai tellement. Je suis très éclectique en même temps assez classique. Comme
ça donne envie de revoir beaucoup de films. Mais, dernière question, est-ce qu'on peut dire du film que c'est un feel good movie doux amer?
Ouais, ben moi je dis toujours que c'est une comédie mélancolique en fait, parce que après on est labellisé par les distributeurs ou par les gens qui voilà, mais moi, comme moi, quand j'écris, je ne sais pas qu'est-ce que j'écris ou comment, ça m'intéresse plus ou moins, mais en tout cas, s'il faut mettre une étiquette plus précise, je dirais qu'il y a quand même une forme de mélancolie dans le film, mais ce n'est pas que de la comédie pure.
Eh bien, voilà de quoi faire envie à nos auditeurs. Simple comme Sylvain sort au cinéma ce mercredi 8 novembre en France. Merci beaucoup, Monia Choukri, d'avoir échangé avec nous pour l'Instant Ciné sur Radio G.
Merci à vous.